France Culture.
Bonjour Catherine Destival.
Bonjour Nima.
Dans l'épisode d'hier, on a évoqué votre parcours de rochassière, comme vous dites, grimpeuse de rochers. Les années 90 marquent un tournant dans votre carrière, puisque vous décidez d'arrêter la compétition pour vous consacrer à la montagne. Vous faites d'abord l'ascension du Pilier Bonatti, en 4 heures, puis la face ouest des Drues, là vous mettez 11 jours, à lutter contre le froid et la tempête, à porter seul vos 80 kilos de matériel. Et puis, vous allez vous lancer dans votre grand projet, qui est de gravir les 3 grandes faces nord des Alpes, en hiver et en solitaire, sans reconnaissance. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, puisqu'on va le consacrer entièrement à la grande ascension, s'il fallait en retenir une, qui va faire de vous une vraie alpiniste, c'est vos mots. Cette montagne que vous allez affronter, c'est l'Eiger, la montagne tueuse. Pourquoi l'Eiger, Catherine Estival ?
Parce que c'était la montagne qui, pour moi, était le passage obligé pour devenir une vraie alpiniste. Et qui dit vraie alpiniste, c'est être capable de grimper sur de la glace, la neige, du rocher, un ensemble de matières un peu différentes. Et jusqu'à présent, je n'avais fait que du rocher. Et très peu de glace. Et quand j'en faisais, c'était 5-6 mètres, mais pas plus, pour passer d'un bout de rocher à un autre. Alors que là, sur la Eiger, il allait falloir que je gravisse des grandes pentes de glace, voire parfois des petits bouts de cascades de glace, enfin de goulottes, qui pouvaient faire 3, 4 mètres, 10 mètres. Et je ne savais pas faire ça. C'était pas du tout mon élément, en tout cas un an avant d'envisager ce genre d'ascension. L'Eiger, pourquoi ? C'est aussi une montagne qui était... C'était la dernière face nord qui a été vaincue en 1938. Et du coup, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que beaucoup d'alpinistes ont trouvé la mort, en fait, dans cette paroi avant de réussir à la gravir. Et même après, d'ailleurs, il y a toujours eu des drames parce que c'est une montagne qui est dangereuse, beaucoup de chutes de pierre, avec un temps très changeant. Parce que ça fait comme une sorte de barrière assez importante, tout d'un coup dans le relief. Et dès qu'il y a du mauvais temps, il vient se coller là. Et du coup, c'est une montagne dangereuse. Et on l'appelle, alors l'Eiger, je sais pas si son nom vient, ça veut dire ogre ou pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas, beaucoup d'alpinistes l'appellent l'ogre. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de drames, et en plus relatés en direct pratiquement, parce qu'au pied de l'Eiger, il y a des pistes et il y a un bel hôtel, magnifique hôtel, d'où les gens peuvent observer les alpinistes à la longue vue, comme ça, en temps réel. Et du coup, il y a des journalistes, quand il y avait des drames, qui arrivaient et racontaient ce qui se passait. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre et puis ça a donné une certaine notoriété à cette montagne.
Une triste notoriété.
Une triste notoriété, évidemment. L'Eiger, tous les alpinistes en ont entendu parler de façon plutôt dramatique. Et moi, quand j'étais enfant, je me souviens, il y avait à la radio, on parlait de l'Eiger. On parlait aussi de deux maisons coincées en hiver à la face nord des Jorasses. Enfin bref, on n'avait pas de télé, mais la radio, on l'avait, et on écoutait ce genre d'informations qui nous... Enfin, moi, ça me fascinait, ça me faisait peur même.
Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de vous effrayer, ça vous attire.
Je sais pas, non, ça m'a pas attirée, mais que ce soit des exploits ou des drames, mes parents, mon père en tout cas, suivait bien les informations pour savoir ce qui se passait. Il aimait bien les histoires de montagne. J'écoutais en même temps, quoi. Et si un des parents est attentif à certaines informations, l'enfant, forcément, est plus attentif aussi.
Est-ce que vous pourriez décrire l'Eiger pour qu'on comprenne un peu à quoi elle ressemble, cette montagne, quand on est en bas ?
Alors, quand on est en bas, cette montagne, elle est quand même gigantesque. Elle fait 1700 mètres de dénivelé. C'est la plus haute dénivelé qui existe en Europe. C'est-à-dire que après d'avoir des dénivelés pareils, on retrouve ça en Himalaya ou probablement dans les Andes, etc. Mais pas en Europe. C'est pour cette raison peut-être aussi que cette face nord a été vaincue en dernier. Et donc elle est noire. noire et blanche, on va dire. Beaucoup plus de noir que de blanc. Enfin, ça dépend des saisons, remarque. C'est assez effrayant parce que c'est noir et blanc et c'est comme si c'était concave. C'est-à-dire qu'au début, ça monte un peu en dalle, puis après, ça surplombe. Mais dans la face, pour la gravir, moi, j'ai fait la première voie qui était en plein milieu de la face, qui s'appelle la voie Eckmeyer, qui était un des alpinistes, en fait, allemands. Et il y a des traversées. D'abord, le passage de Rocher, je ne sais pas comment il s'appelle. Après, il y a la traversée Achterstoisser, le premier névé. Ensuite, il y a une barre de 15 mètres à peu près. Après, il y a un deuxième névé. Après, on arrive au bivouac de la mort. Et ensuite, il y a la rampe qui part un peu à gauche. Après, il y a la traversée dite des dieux qui part à droite sur presque 200 ou 300 mètres. Après, on remonte un lieu qui s'appelle l'araignée. Et après, il y a la première fessure de sortie. Après, on traverse encore à gauche. Enfin bref, c'est que un dédale dans la paroi pour trouver le passage, la faiblesse de la paroi.
Et donc, votre idée, c'est de gravir l'Eiger à vue? Sans reconnaissance, c'est-à-dire que le jour J, c'est la première fois que vous allez y monter. Et vous avez parlé un petit peu hier de votre préparation physique avec Jeff Lowe, qui vous apprend à grimper sur la glace. Mais comment on se prépare mentalement à affronter quelque chose qu'on ne connaît pas ?
Alors, moi j'ai voulu faire à vue pour faire une première tout court. C'est-à-dire qu'une première qui n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme ou un homme. Bon, je suis un peu orgueilleuse, mais je voulais pas qu'on me reprenne là-dessus. Et du coup, pour faire une première, il a fallu que j'étudie cette paroi, savoir qui l'avait faite, comment, qui l'avait fait en solo. Et en fait, j'ai découvert que ces alpinistes connaissaient la paroi avant. Donc moi, je me suis dit, pour faire une première, je vais le faire à vue, sans reconnaissance. Sans reconnaissance, mais il y a beaucoup de récits. Donc j'ai pu lire beaucoup d'articles là-dessus, j'ai pu voir des photos, je suis pas sans information. Et il existe toujours, quand il y a un itinéraire assez classique, des topos, ce qu'on appelle des topos, pour faire la voie. Donc j'étais à vue, mais je savais à peu près ce que j'allais trouver. C'est vrai que je l'avais approché déjà une fois, parce que Jeff Lowe, qui était mon mentor de l'époque, avait ouvert une voie en solitaire, tout seul, un an avant. Et je l'avais aidé dans cette ascension. L'aidé à porter des sacs au pied de la paroi. Et là, l'aidé encore plus germé. C'est-à-dire que je voyais la paroi. Et pour l'avoir accompagné au pied, j'ai vu à peu près comment c'était, la voie classique. Hein. Et l'année d'après, quand j'ai voulu le faire moi, une semaine avant, j'ai été me promener au pied pour voir. Puis en fait, ça, je le sentais bien, quoi.
Et puis vient le jour J, donc on est le 9 mars 1992, il est 5h du matin, Jeff Lowe est venu vous soutenir et il vous attend en bas. Vous avez dit qu'au pied de l'hôtel, il y a ce télescope, donc lui, ça veut dire qu'il peut vous voir en fait en temps réel. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous partez ?
Alors quand je pars, je suis un peu dans l'état d'esprit de passer un examen. C'est un peu tendu, mais en même temps me disant mais j'ai pas fait l'impasse, donc il y a pas de raison, je vais y arriver. C'est malgré tout, on va passer un examen. Mais c'est pas une angoisse, c'est un peu tendu, quoi. Et une fois qu'on est dedans, par contre, une fois que je suis arrivée au pied, la tension est partie, c'est-à-dire que j'étais dans mon élément, c'était exactement comme j'avais imaginé, tout se passait exactement comme je l'avais prévu, quoi, en gros. Du coup, toutes les tensions partent et puis c'est plus de plaisir en vrai. La tension de l'examen, elle disparaît. Et cette tension, j'aime pas trop. Enfin, c'est vrai qu'on est. Voilà, c'est.
Vous n'aimez pas avoir peur, vous avez dit ça.
J'aime. C'est pas de la peur là, c'est parce que sinon, j'irai pas. Est-ce que ça va se passer exactement comme je l'ai imaginé, quoi? C'est un peu ça. Mais en sachant que moi, je partais pas sans biscuits. C'est-à-dire que si jamais ça n'allait pas, je pouvais redescendre. Dans ce sens-là, je suis pas une tête brûlée, quoi. Ok, c'est engagé ce que je fais, mais en même temps, si ça va pas, je sais être raisonnable et je sais m'assurer s'il faut ou redescendre s'il faut.
Est-ce que vous avez des gris-gris ?
Non, j'ai pas de gris-gris.
Donc vous dites que vous partez, que vous êtes plutôt confiante. À 1h de l'après-midi, vous arrivez donc au bivouac de la mort, qui est donc tristement célèbre, puisque deux alpinistes allemands sont morts d'épuisement en 1936. Vous dites dans votre livre qu'il y a des alpinistes qui veulent mourir en haut, qui ont une vision un peu romantique de la montagne. Mais vous, pas du tout. C'est assez étonnant.
Alors, je ne dis pas que les alpinistes veulent mourir en haut. C'est qu'il y a des alpinistes qui sont prêts à tout pour réussir, quitte à perdre la vie. Ou peut-être le sens de la vie n'a plus d'importance. Le but, c'est d'y arriver. D'y arriver coûte que coûte. Comme quand on voit des gens qui vont à l'Everest, qui sont prêts à perdre des mains ou des pieds parce que ils se gèlent. Voilà, il y a des gens qui sont prêts à perdre l'intégrité de leur corps pour parvenir à leur fin. Et je trouve ça, c'est complètement à l'opposé de ce que j'imagine. Je veux absolument pas me geler, me faire mal. Et du coup, je suis pas prête à tout pour réussir. Voilà.
Vous avez évoqué un peu tout à l'heure les différents passages. Donc, il y a le bivouac de la mort, la traversée des dieux, l'araignée. Les noms de ces passages, c'est toujours des noms assez étonnants qui sont assez poétiques. Est-ce que c'est une façon de donner du sens à ces passages? C'est-à-dire que les ascensions, au fond, il y a quelque chose d'assez intérieur. La traversée des dieux, c'est...
Je ne sais pas si c'est intérieur, mais la traversée des dieux, c'est quand ils ont réussi à traverser, les premiers ascensionnistes, ils ont dû se trouver super forts. Et du coup, c'est la traversée des dieux. c'est ça. Puis l'araignée, ce qui est juste après, c'est une espèce de goulet en glace dans lequel il y a pas mal de chutes de pierre. Et donc, c'est la toile d'araignée où les alpinistes se font choper, quoi. Voilà, c'est ça. Mais le bivouac de la mort, ce terme est resté parce que ces deux Allemands sont morts là, et puis surtout, on les a retrouvés beaucoup plus tard sous la glace.
Et donc, vous continuez à grimper, vous avez passé une grosse partie de la voie, et là, il commence à faire nuit. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que votre projet de faire l'Eiger, c'est aussi de le faire en une journée, et donc de ne pas bivouaquer en haut. Ce qui veut dire que si vous partez à 5 heures du matin, le projet, c'est d'arriver dans la nuit. Pourquoi est-ce que vous aviez ce projet de le faire d'une traite?
Alors, je voulais le faire d'une traite parce que ça me permettait de ne pas porter trop de matériel. Donc, on part plus léger, du coup, on est plus rapide. Mais c'est un peu un pari. J'avais quand même, au cas où, une doudoune et puis un sursac pour me protéger si jamais je devais dormir toute la nuit. En fait, c'est un peu ridicule parce que, bon, il s'est trouvé que je me suis fait prendre par la nuit quand même. Et du coup, j'ai hésité à m'arrêter ou continuer. Mmh. Et je me suis dit, c'est stupide de m'arrêter. Si je m'arrête, il faisait moins 15. J'avais grimpé toute la journée, donc un peu déshydraté. Je suis sûre que demain matin, j'aurai les pieds et les mains gelées. Donc, il faut que je continue. Et j'ai continué, quitte à passer la nuit, à bouger. Mais je ne voulais absolument pas me geler un millimètre de mon corps. Donc, je décide d'allumer la frontale et puis de continuer mètre par mètre. Alors, comme je commençais à être fatiguée, je faisais super attention à chaque mouvement. C'est-à-dire que c'était quand même encore très technique. Il fallait pas zipper, enfin tomber.
Glisser, oui.
Je n'allais pas glisser. Et du coup, je restais concentrée. Je faisais attention aussi à la sensibilité de mes mains. Parce que toute l'ascension, je l'ai faite sans gants, par moins 15 quand même. Et là, j'ai commencé à mettre des gants parce que ça devenait plus en mixte. Et puis, je commençais à avoir froid. Donc, j'ai mis les gants pour être sûre de ne pas me geler. Et puis, de me réchauffer toutes les 5 minutes parce que je perdais un peu de sensibilité. Donc, je les secouais. Tant que c'était pas chaud, je repartais pas. Donc, j'ai fait ça. Et puis, me reconcentrer aussi. Je commençais à être fatiguée dans la tête. Malgré tout, c'est très fatigant d'être resté concentré des heures et des heures. Pour pas faire de bêtises. Et du coup, je sentais que dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'est de courir vers le sommet. Et basta. Et en fait, c'est stupide. Il fallait que je reste concentrée pour pouvoir arriver en toute sécurité au sommet. Donc, j'ai ralenti le mouvement. Je me suis dit, allez, on assure chaque pas, on fait gaffe à tout. Il faisait nuit, en plus, je voyais rien. J'avais la frontale, mais enfin, à l'époque, en plus, nos frontales, c'était pas top. Hein. Et je voyais que ce qu'il y avait au-dessus de moi, mais je voyais même pas. J'allais tout droit, c'est tout. Puis alors, à un moment donné, je continuais tout droit et j'arrive à 4 pattes presque sur le sommet. Parce que je continuais, puis tout d'un coup, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien au-dessus. Donc ça, c'était assez... Je me suis moqué de moi. Enfin, je me suis dit, bon...
Et... Oui, c'est pas une arrivée glorieuse où on est debout, les non, bras levés.
Non, j'étais à 4 pattes sur l'arête. J'ai dit, bon, ça y est, j'y suis. Ouf. Et là, je me suis redressée et puis j'ai commencé à marcher sur l'arête sommitale, prête à redescendre tout de suite. Et là, en marchant sur l'arête, tout d'un coup, je vois un sac de couchage étalé. Oh, je me demande ce que c'est. Puis l'idée me vient tout de suite en me disant, bah, c'est peut-être Jeff qui est venu monter pour m'attendre.
Jeff Lowe.
Jeff Lowe, ouais. Et du coup, bah, je l'appelle. En fait, il dormait profond. Et je l'appelle, il se réveille. Et puis voilà. Donc, bah, on a bu un coup, on a fait une petite soupe. Puis il avait amené un duvet pour moi, donc j'ai dormi là-haut. Et voilà, c'était une nuit sympa, il faisait beau. Et le lendemain, on est redescendus tous les deux, là, au petit matin. Et on a mis 2 heures, quoi.
À redescendre.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ont dit vos parents quand vous leur avez dit « je vais faire l'Aiger » ?
Je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit. Ouais, je n'aurais pas dit. D'abord, moi, comme je l'ai dit précédemment, je suis l'aînée de 6. Ils avaient d'autres choses à s'occuper. Du coup, c'est les premiers que j'ai appelés dès que j'ai pu.
Ah oui.
J'étais au Toki ou au Ki avec un ami en bas qui suivait donc les choses. Lui, il essayait de faire un bout de film. Parce qu'en fait, qui dit professionnel dit aussi obligé de faire des images pour qu'on puisse parler de cette ascension. Et du coup, j'avais un ami réalisateur qui était en stand-by en bas et qui, de temps en temps, dans les passages clés, venait faire des images avec un hélicoptère. Donc, il n'y avait personne dans la paroi, je ne voulais pas. Mais l'hélicoptère venait, en fait, dans les passages clés. Il savait où j'étais, quoi, en gros. Donc, bon, voilà, il a fait quelques images. Et donc, au Toki, j'ai pu lui dire, quand j'étais au sommet, de prévenir mes parents. Donc, il les a prévenus tout de suite. Et enfin, c'est les premiers que j'ai prévenus, parce que en fait, je sais pas pour quelle raison, on n'a pas pu... Il n'y avait pas de communication pour dire que j'étais sortie de la paroi.
Et vous dites qu'après cette ascension, il y a un peu le passage obligé d'aller parler aux journalistes. Parce que cette ascension, elle va faire le gros titre des journaux. Mais surtout, vous dites que ce que vous avez gagné, c'est la reconnaissance de vos pères alpinistes. Est-ce qu'au fond, c'est pour ça que vous vous êtes lancé dans cette ascension ?
Un peu pour ça, ouais. Je pense que mes ascensions précédentes en rocher avaient fait quelques jaloux. Parce que en tant que femme, j'avais pas mal de presse. Et... à performance égale, j'avais de la presse, quoi. Et ça énervait les plus forts qui espéraient vivre aussi de l'alpinisme comme moi. Donc, le problème, c'est que j'étais une femme et du coup, c'est moi qui récoltais les médias. Donc, ça m'embarrassait aussi. J'étais gênée vis-à-vis d'eux parce que j'avais un copain qui faisait du solo et tout, dans des grandes parois, on n'en parlait pas, ou très peu. Pas dans la grande presse, en tout cas. Et voilà, donc j'ai fait l'Aiger, et c'est vrai que après l'Aiger, les alpinistes m'ont regardé avec un autre regard. C'est-à-dire que, voilà, il y en a même qui sont venus me proposer de grimper avec eux.
Bon. Ce qu'ils ne faisaient pas avant.
Non, parce que ils pensaient que j'étais juste une fille qui faisait du rocher, quoi. Là, ça a changé un peu le regard. Et puis, c'est vrai qu'il y a peu d'alpinistes qui se lanceraient en solo dans la face Nord Liger. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Enfin, surtout à cette époque-là. Après, du coup, ça m'a calmé. Je me suis sentie plus à l'aise par rapport à eux. Et puis après, j'ai fait la face Nord des Jorass. Pareil, à vue, en solo. Et la face Nord du Cervin.
Ouais.
Par une voix que j'avais... Alors, la face Nord des Jorass, je pensais que ce serait la première à le faire en hiver. Et en fait, non. Et puis là, sur le Cervin, apparemment, après Bonatti, qui avait ouvert cette paroi en 65, personne n'avait jamais répété cet itinéraire.
Justement, il y a une phrase de Bonatti que j'aime bien, qui dit « L'alpinisme, c'est un moyen pour raconter l'homme qui est en nous, et que la conquête la plus grande, c'est la conquête intérieure. » Qu'est-ce que, avec l'ascension de l'Aiger, vous avez l'impression d'avoir conquis en vous ?
Je ne sais pas trop. En fait, moi, l'épreuve la plus importante a été quand même les drues, cette ouverture de voie qui a duré 11 jours. C'était long, assez fastidieux, assez dangereux aussi. Enfin, dangereux, très... beaucoup plus délicat que la face Nord de l'Aiger. L'Aiger, c'était plus... je savais que j'étais capable de grimper dans de la glace. C'est quand même pas une paroi super... technique en termes de glace et de neige, c'est quand même le béaba de ce qu'il faudrait savoir quand on est un vrai alpiniste. Et du coup, j'étais Ouais, j'étais très satisfaite. C'est un beau souvenir parce que, mais c'était beaucoup moins tendu que les Drus, pour moi. Mmh. Après, c'est bon, je réalisais que j'en étais capable. Après, je me connais, donc je sais que quand il y a des passages un petit peu délicats, tout ça, j'arrive à me concentrer, j'arrive à prendre sur moi, j'arrive à maîtriser mes émotions, j'arrive à. Mais c'est une chose que j'avais déjà éprouvée dans d'autres parois. Non, ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est un peu la montagne et ça me fait pas peur. En fait, c'est mon élément. Je suis bien dedans. Je sais être avec. Être avec, c'est pas contre. Avec. Donc, du coup, c'est plutôt confortable.
C'est-à-dire que c'est pas un affrontement?
Non, c'est pas un affrontement. C'est juste être bien dans un élément. Il y en a qui sont bien dans la mer, dans l'eau. Moi, j'ai peur de l'eau et tout. Enfin, je suis pas bien du tout. Mais la montagne, c'est mon élément et j'y suis à l'aise et je panique pas. Voilà, je sais d'où viennent les dangers. Je les évite, évidemment. Et du coup, voilà, quand on connaît un petit peu où on met les pieds, c'est beaucoup plus agréable.
Que vous ont dit vos parents une fois que vous avez fait l'ascension de l'Eiger?
Non, mon père, après, quand je l'ai vu et que j'étais prendre un repas avec eux, t'as peut-être assez prouvé. Voilà, ça s'arrête là. Mais il m'a pas dit plus. Et puis, et évidemment, ils devaient pas être super à l'aise que je fasse ce genre de choses. Mais mes parents, je sais pas si c'était de la naïveté ou envie de me laisser tranquille pour que ils voyaient bien que j'étais heureuse et que je faisais ce que j'aimais. Mais, c'est quand même quand ma mère qui m'a dit quand même ils en parlent dans la presse, c'est que ça doit être difficile et dangereux. Non. Donc c'est voilà, et est-ce que alors qu'ils savaient pertinemment ce que c'était que la montagne, enfin c'était une façon de pas vouloir voir, de pas vouloir se connaître tous les détails de ce que pouvait engendrer une telle ascension.
Et là, vous dites, votre père vous dit peut-être que t'as assez prouvé. L'année d'après, vous allez faire l'ascension du Cervin, donc qui achèvera ce grand projet des trois grandes faces nord des Alpes. Vous restez à ce jour la seule femme à l'avoir fait, mais surtout la seule alpiniste à l'avoir fait sans reconnaissance. Dans un sens, votre objectif, il est un peu atteint. À quel moment vous vous dites, comme dit votre père, j'ai assez prouvé?
Alors, je me suis jamais dit ça. J'avais d'autres ambitions. Je voulais faire des choses en Himalaya, et donc je suis allée en Himalaya. Je voulais ouvrir une voie à la face sud de l'Annapurna. Je suis allée au Makalu. Je voulais faire le pilier des Français en style alpin, et puis faire le Chichapagma en style alpin par la voie qu'avait ouverte Erhard Loretan, Jean Troyer et Wojtek Kurtyka. J'avais envie de me montrer ce que j'étais capable de faire en Himalaya. Voilà. Et en fait, j'ai découvert que c'était un univers que j'aimais pas. J'aime pas la haute altitude, ça me fait peur. Parce qu'on est diminué et j'aime pas être diminué. J'aime bien sentir que j'ai tous mes moyens pour me sauver si jamais il y a un problème. Et alors qu'en Himalaya, au-delà de 7000, on est quand même pas bien. Hein. Ça va, hein, c'est ok. Mais,
C'est votre limite?
Non, je suis montée à 8000, hein, mais...
Non, je veux dire, c'est pas votre limite...
À ma limite acceptable, oui. Oui, dans ce sens-là, je me dis qu'en fait, qu'il y a des gens qui engagent beaucoup plus que moi. Et moi, je me sens pas capable de faire ça, d'engager jusqu'à perdre la vie. C'est pas de la triche, mais forcément, en Himalaya, si on va pas pousser, on pousse pas le curseur un peu plus loin, on fait pas grand-chose. On peut pas. D'habitude, les expéditions se font toujours aider, d'ailleurs. Il y a des Sherpas partout qui organisent des camps, des machins, des cordes fixes. Les premières expéditions étaient organisées comme ça. Mais le jeu a changé ensuite, et les vrais alpinistes ont décidé de ne plus avoir ce genre d'aide. C'est-à-dire que maintenant, un alpiniste, arrivé au camp de base, il se faisait aider pour arriver au camp de base, au pied de la paroi, puis après, ils étaient tout seuls. Pas d'aide de Sherpa ou de porteur, etc. Et donc, moi, j'ai voulu enchaîner directement avec le nouveau jeu. Le jeu, c'est une certaine éthique. Et puis, voilà, c'est un autre monde. C'est encore un autre... Il y a des gens très forts. Jean-Erhard Loretan, qui est un gars super fort. Jean Troyer aussi, c'est les Polonais. Voilà, il y a des Anglais aussi qui ont été formidable dans ce genre d'ascension. Mais c'est vrai qu'il faut pousser le curseur un peu loin. Parce que là, c'est un pari, après.
Oui, c'est-à-dire que vous tenez trop à votre vie pour aller la risquer.
Ouais.
Est-ce que vous diriez que la très haute altitude, la très haute montagne, comme l'Everest ou dans l'Himalaya, c'est une montagne qui est plus pour les humains ?
La très haute montagne, oui, c'est à peine humain. Après, ça dépend comment on le fait. Aujourd'hui, l'Everest, pour être franche, les gens ils prennent de l'oxygène assez bas. Mmh. Ils sont encadrés, on leur enlève leurs crampons quand ils arrivent, on les enlève leurs chaussures, on leur apporte le thé dans la tente. Enfin, ça n'a rien à voir. Ce sont des touristes de l'altitude. Mais pourquoi pas, hein, je critique pas. C'est juste que ce sont pas des alpinistes. Ce sont des gens qui ont envie de faire l'Everest parce que c'est l'Everest, ou faire un 8000 parce que c'est ça a une altitude bien... Il y en a 14 des 8000, donc il y en a qui ont envie de faire un 8000. Très bien, je critique pas. C'est juste que ce n'est pas franchement des vrais alpinistes. On n'a pas la même façon d'appréhender un parcours. Après, on va dire, ouais, je suis élitiste et tout, mais moi, en tant qu'alpiniste, je n'ai pas envie de faire une voie normale, je n'ai pas envie de faire une voie que tout le monde fait. J'ai envie de faire un truc différent. Pourquoi pas ouvrir une nouvelle voie ou faire une voie technique ? Ça m'amuse. C'est plus challenging. Et puis sans oxygène et sans aide de porteur ou de corde fixe. Voilà, c'est ça qui m'amuse. Mais en fait, c'est ça la montagne, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on a envie de faire les voies normales, bah parfait. Si on a envie de faire des voies techniques, bah aussi. C'est chacun met le curseur là où il a envie de le mettre. Sauf que moi, le curseur, quand je veux faire des voies très dures, en très haute altitude, il y a un moment donné, je n'accepte plus le risque que ça peut engendrer. C'est-à-dire que pour des 7000, ça va encore, mais au-delà de 7004, 7005, on commence à se sentir un peu faible, quoi. Et soit on est très 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 fort, mais on n'est pas égaux non plus face à l'altitude. Donc on ne sait pas trop comment notre corps réagit. Et même si on est super bien entraîné, parfois le corps il réagit pas très bien. Et voilà. Donc c'est un peu jouer avec le feu.
La glace.
Ou la glace.
Merci beaucoup Catherine Destivelle. On va se retrouver demain pour notre 5e et dernier épisode. On parlera de votre vie d'après les ascensions, de ce que c'est après tant d'exploits de revenir à une vie plus normale, mais en fait une vie qui va rester normale assez peu de temps, puisque vous allez vous lancer dans une toute nouvelle aventure qui est celle de l'édition. C'était À Voix Nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Alexandra Bergel, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Nima Cartier disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.